Question d'islam par Ghalib Ben Sheikh. Aujourd'hui, nous parlons du sunnisme et du chiisme, de cet antagonisme entre ces deux confessions au sein de la tradition religieuse islamique. Et pour aborder ce sujet, j'ai plaisir à accueillir aujourd'hui l'islamologue Houari Arahawi. Bonjour.
Bonjour.
Merci Houari Arahawi de venir nous faire l'amitié d'abord par votre présence et nous expliquer, nous parler de cet antagonisme entre les sunnites et les chiites, surtout de nos jours. Cet antagonisme est virulent, véhément. D'abord, est-ce que ça a toujours été comme ça à travers l'histoire? Et puis, comment y a-t-il eu cette naissance d'abord de ce qui n'est pas véritablement un schisme? Le chiisme n'est pas schismatique, comme disent certains, mais nous aimerions avec vous comprendre de quoi s'agit-il au juste. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle des chiites et des sunnites?
En fait, c'est deux courants qui appartiennent à la même religion. Chacun se disent obtenir l'orthodoxie, c'est-à-dire que c'est lui, c'est la voie qui mène à l'islam, entre guillemets, vrai.
Authentique.
Authentique. Ça a éclaté, en fait, tout de suite après le décès du prophète. Donc, c'est une question que moi, je considère pour le pouvoir, c'est-à-dire qui va succéder au pouvoir après le décès du prophète. Et là, tout de suite, c'était Abou Bakr qui a succédé en premier au prophète Mohammed, qui a été aussi rejeté par ceux qui soutenaient plus la candidature de Ali, qu'il considérait plus habilité à diriger la communauté après le décès du prophète. Ils s'appuyaient l'un et l'autre, ils s'appuyaient sur des traditions prophétiques.
La question, c'est d'abord une succession d'ordre politique, la commanderie des croyants qui va présider ou commander aux destinées de la communauté des croyants. Et puis, est-ce que cette succession est d'ordre dynastique ou pas? Parce que le prophète, n'ayant pas laissé une descendance mâle, on a tout de suite, en pensé à son gendre et cousin Ali, ce qui était contesté, ou en tout cas pas présenté comme ça dans un premier temps, par les autres compagnons.
Même s'il était le gendre et le cousin du prophète et était le premier à adhérer à la religion musulmane, à soutenir aussi le prophète, les musulmans considèrent que le prophète n'a pas laissé de testament et qu'il n'a pas d'héritier, chose que contestent les chiites. Donc de là, Abou Bakr a été voté par les gens de l'Hal ou l'Aqd.
Expression arabe qui veut dire...
Les gens qui lient et délient.
Ceux qui savent lire et délier, sous-entendu les chevaux des questions complexes.
Après, Ali a accepté la situation pour éviter la discorde. Donc, il y a eu le premier calife qui était Abou Bakr. Après, c'est Omar qui a succédé.
Houari Arahawi, si vous voulez bien, nous allons planter, si je puis dire, un peu le décor. La scénographie globale, nous sommes en 632, le 8 juin, dit-on. Donc le prophète de l'islam rejoignit le compagnon suprême, selon la formule consacrée, donc il est mort. Et la question de sa succession se pose. D'aucuns disent, ce sont plus tard, on les appellera les sunnites, c'est quelqu'un parmi ses compagnons qui va lui succéder, et d'autres vont dire, ben non, il faut que le souffle de la prophétie reste dans la famille. Et donc ceux-là sont les partisans,
les disciples de Ali.
C'est l'étymologie même du mot chiite. Le mot existe dans le Coran.
Ben, il veut dire parti, en même temps aussi qu'il veut dire ansar, les partisans.
Oui.
Il s'appuie surtout sur le hadith, les chiites, pour appuyer un peu leur thèse de dire que Ali était prioritaire et la succession lui revenait, sur hadith al-Taqalayn, la tradition des deux charges, où le prophète disait « je laisserai deux choses » ou si vous suivez, vous n'allez pas vous égarer, et c'est le Coran et les gens de la maison. Et ce hadith, cette tradition, se trouve aussi dans les recueils sunnites, et c'est un hadith authentique, qualifié d'authentique.
Alors, ce hadith, ou cet aphorisme, ou cette maxime dite des deux charges, a été aussi détourné par les sunnites qui disent « Ah oui, mais nous l'avons entendu, si je vous laisse deux choses et que vous vous y tenez, vous ne serez pas égarés, c'est le Coran et ma tradition. »
Après, oui, l'interprétation, elle diffère. Donc, ce que je veux dire, c'est que les chiites, pour appuyer leur thèse, ils vont aussi puiser dans les recueils sunnites. Après, l'interprétation, c'est selon... celui qui va interpréter.
Alors, nous avons compris étymologiquement que chiite vient de chia, qui veut dire faire partie d'eux, ou être partisan d'eux, ou être le soutien d'eux, ou le supporteur d'eux, voire le disciple. Les deux versets dont je parlais tout à l'heure dans le Coran, c'est le verset qui présente Abraham comme étant faisant partie, comme étant le chiite de Noé. Ça, c'est dans la sourate les bien rangés, celles qui se rangent bien. La sourate 37, c'est le verset 83. Et puis, vous avez aussi ce passage où Moïse a un de ses disciples, ou un de ses chiites, ou un de ses partisans qui se querelle avec un autre au moment de la bagarre où l'un des deux est mort. Donc, ce sont les appellations de chiites dans le texte coranique. Mais l'appellation chiite, plus tard dans l'histoire, sera consacrée comme les disciples, les partisans de Ali. Et alors, et qu'est-ce que ça veut dire sunnite?
Alors sunnite, le sunnisme vient de sunna qui désigne la tradition du prophète.
Et qu'est-ce que c'est qu'une sunna d'une manière générale, indépendamment même celle du prophète?
Alors la sunna, c'est...
C'est une tradition, une loi d'abord, une règle.
Que ça soit positif ou négatif. Après, elle a été adaptée par les musulmans disant « Sunna, c'est positif parce que ça reprend toute la tradition prophétique ». Et donc, c'était plus quand il y avait des questions inédites. Donc là, ils revenaient, les musulmans revenaient à toute la tradition prophétique, tout ce qui a été dit par le prophète, que ce soit de ses actes ou ses paroles. Dans un premier temps, c'était une transmission vraiment orale. Et à partir du deuxième siècle de l'Égypte, là, ils ont commencé la mise à l'écrit des traditions prophétiques, oui. et des compagnons.
Oui, on est au 9e siècle de notre ère, oui. Dans mon esprit, en vous posant la question sur le sens même du mot « sunna », avant qu'on l'applique à la tradition prophétique, c'est quelque chose qui... la « sunna » de Dieu, par exemple, c'est quelque chose qui est immuable. S'il neige en plein hiver, c'est une « sunna » naturelle. Et puis, la tradition prophétique, c'est dire, c'est silence même, le fait d'avoir approuvé telle ou telle situation, son enseignement, tout ça fait partie de la sunna du prophète. Et donc, les sunnites sont ceux qui veulent y adhérer et y être fidèles.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce qui justifie, quant à sa succession, certes il n'a pas laissé des consignes claires, que les sunnites disent « ben nous on va désigner, élire », si le mot n'est pas trop usurpé pour l'époque, en tout cas porter allégeance un de ses compagnons et ne pas aller vers Ali. Comment les choses se sont-elles passées?
Ceux qui suivaient Ali... C'est-à-dire, Ali ne s'est pas présenté quand il y a eu, donc il était plus préoccupé par...
Par le décès de son beau-père.
Et l'enterrement aussi. Et ça s'est passé entre Ali, entre Abu Bakr, Omar ibn Khattab et l'Ansar de Médine.
Ansar sont les auxiliaires, ceux qui ont supporté la
de Médine.
Et la, donc là, la prédication mohammedienne.
Voilà. Donc là, ça s'est négocié entre ceux de Médine et le Quraychite, je veux dire, ceux qui ont émigré de Mecca vers Médine. Et là, ça s'est penché plus pour ça s'est penché pour Abu Bakr, mais Ali n'était pas présent. Selon l'histoire, donc Ali est resté, il a rien dit, pour ne pas aussi soulever la communauté qui venait, aussi cette jeune communauté, pour éviter la discorde. Et donc là, les Ansar, ceux qui supportaient Ali, ils ont suivi Ali qui était le guide imam pour eux. D'ailleurs, on dit que Fatima n'a pas fait allégeance à Abu Bakr jusqu'à son décès.
Oui. On a eu une émission qui a abordé ces premiers temps de la naissance de la communauté post-décès du prophète. Après, il va y avoir Omar, après, il va y avoir Othman, et on arrive à Ali. Qu'est-ce qui expliquera par la suite l'antagonisme? D'abord, est-ce que ça a toujours été le cas à travers l'histoire? C'est une aussi question entre les sunnites et les chiites.
On va dire le schisme. Où les chiites se sont séparés des sunnites, c'était quand Ali arrivait au pouvoir, c'est-à-dire quand Ali a succédé à Othman, le troisième calife, et les causes de son assassinat et de dire que Ali abritait les assassins de Othman, donc Muawiya qui s'est soulevé, qui était le cousin de Othman, qui s'est soulevé contre Ali. Donc Ali, c'est à cette période-là, c'est quand Muawiya, quand ils ont brandi là les Corans, ils ont demandé à ce qu'il y ait un arbitrage, l'arbitrage de Droh en 657, l'arbitrage, ça a été plus en faveur de Muawiya. Donc c'est là où il y a eu vraiment le schisme, c'est-à-dire les chiites, là c'est là où ils se sont vraiment pour soutenir Ali. Et c'est là aussi où il y a eu ceux qui soutenaient, parmi ceux qui soutenaient Ali, aussi il y avait les kharijites qui faisaient partie des partisans de Ali. Donc c'est là où il y a eu l'éclatement.
Suite à l'assassinat du troisième calife Othman, on est en 656, il y a eu une conjuration. C'est le tour de Ali d'être calife. On lui avait reproché le 11, c'est la famille de Othman, et surtout aussi Aïcha, veuve du prophète, pour X raisons, d'avoir été un peu tiède quant à venger le sang, en quelque sorte, de Othman. Et c'est surtout un membre de sa famille, vous l'avez évoqué, Muawiya, qui était gouverneur à Damas à ce moment-là. Et donc, on lui avait contesté le califat. Et il y a eu cet arbitrage. Et une partie des partisans d'Ali est sorti, donc on parle des sortants, vous avez évoqué les kharijites. Il ne faut jamais les oublier ceux-là, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas majoritaires qu'il ne faut pas en parler, mais en tout cas il y a les sunnites, les chiites, et les sécessionnistes, ou les sortants, ou les kharijites. Revenons à ce qui nous intéresse ce matin, donc aux sunnites et aux chiites, il va y avoir en tout cas divergence, éclatement, pas sur des considérations proprement religieuses, on est toujours dans des considérations politiques.
Voilà, c'est plus pour le pouvoir. Ils se sont scindés, donc c'est là où il y a eu le sunnisme, donc ceux qui supportaient Muawiya, il y a eu le chiisme, les chiites, ceux qui supportaient Ali, et parmi ceux qui supportaient Ali, là ils sont sortis de...
Certains sont sortis,
et c'est de là où venu les kharijites. D'ailleurs, en 658, il y a eu un soulèvement par les kharijites contre Ali, parce qu'il a accepté l'arbitrage, alors que eux, ils disaient c'est à Dieu de juger, parce que ils allaient gagner, et le fait que Ali a accepté cet arbitrage, donc...
Ils allaient gagner, ils allaient remporter une victoire lors de la bataille de Siffin.
Siffin.
Et de toute façon, là, on est un peu dans l'histoire ou la proto-histoire de cet éclatement, de cette manière, vous avez à juste raison parlé, que la communauté s'est scindée. Les choses vont s'aggraver avec la génération d'après.
Oui.
Alors, comment ça se passe?
Alors après, quand il y a eu Muawiya, donc c'est là où ils commençaient à s'organiser. Là, laisser les chiites ou les sortants, les kharijites. Donc il y a eu l'assassinat de Ali 3 ans après
Donc on est
la
en
bataille de Nahr,
661.
voilà, en 661. Et là, c'est Muawiya qui a pris le pouvoir sur toute la communauté musulmane. Donc il n'y avait pas d'opposants. C'est surtout à l'assassinat du troisième imam, qui est le Hussein. Donc c'est là vraiment où le chiisme commençait à vraiment apprendre à se distinguer du sunnisme.
Bon, ça, ce sont les débuts. À un moment
Oui.
donné, Muawiya, fondateur de la dynastie Omeyyade,
Omeyyade.
va finalement prendre le contrôle. Il va y avoir même une dynastie héréditaire. Simplement, Hussein, fils de Ali, n'acceptera pas ça avec ses partisans. Donc, c'est toujours les
C'est à
chiites
la
de tout.
succession de
Yazid
Yazid
Ier.
ibn Muawiyah. Donc là, il y a eu une opposition par rapport à son arrivée au pouvoir. Et donc, voilà, ils étaient plusieurs à se relever contre Yazid. Mais il n'y avait que le Hussein qui a continué sa marche contre Yazid. Donc et là, il y a eu Hadithat Karbala, où il y a eu le massacre
Donc la bataille de Karbala,
voilà.
on est en octobre 680.
Oui.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, avec l'islamologue Houari Al-Rahawi, nous parlons de l'antagonisme entre sunnites et chiites, un peu d'histoire aussi pour savoir si cet antagonisme a toujours été virulent ou pas. Comment explique-t-on cette véhémence? Revenons un peu on joue dans l'histoire, si vous permettez, on oscille entre les débuts et maintenant. Vous vous êtes intéressé aux travaux de certains sunnites et de certains chiites qui, eux, œuvrent pour le rapprochement des deux confessions,
Des deux
si je puis
confessions.
dire. Et comment êtes-vous amené à travailler là-dessus et pourquoi vous avez choisi cette idée de voir parmi les sunnites et parmi les chiites qui œuvrent pour le rapprochement et l'unité des musulmans.
Ce qui m'a amené déjà pour de travailler sur le chiisme, parce qu'il est méconnaissé un peu par la communauté musulmane. Donc c'est
Par la communauté musulmane sunnite et
sunnite,
méconnue.
oui, sunnite. Donc on ne connaît pas vraiment le chiisme. Donc tout ce que se disait sur le chiisme, c'est que c'était pas des croyants. Donc c'est vraiment qu'ils étaient considérés comme non-croyants. De dire beaucoup de choses, on leur collait beaucoup de choses, de dire que Ali était considéré pour eux comme un prophète. Donc ça m'a interpellée. Je voulais savoir pourquoi pourquoi jeter l'anathème sur des gens qui se disaient musulmans. Donc parler avec des chiites, ils se disent musulmans. Qu'est-ce qui a fait pour les qualifier de tels? En fait, c'est ça. Je me suis un petit peu intéressée à savoir un petit peu quoi être chiite et quel est le credo du chiite. Dans un premier temps, je voulais travailler sur les livres scolaires. Comment est qualifié le chiite dans un pays où à majorité sunnite, vu que l'histoire elle est commune et qu'il y a eu aussi des dynasties chiites aussi. Et malheureusement, dans les livrets donc j'ai pris, dans un premier temps, c'était l'Arabie Saoudite, vu que c'est elle qui porte le drapeau de dire le représentant sunnite, et j'ai pris aussi l'Iran. Mais finalement, les livrets de l'éducation religieuse, ou que ce soit de l'histoire, on n'en parle pas. On n'en parle pas.
Aussi bien dans un pays que dans l'autre.
Que dans l'autre, voilà.
Oui, alors à juste raison, vous prenez l'Arabie Saoudite et l'Iran, parce que de nos jours, quand on voit, la réalité, c'est que ça remonte à 3-4 décennies, cette opposition frontale entre les sunnites et les chiites, mais ça n'a pas été le cas à travers l'histoire, en tout cas pas aussi virulente cette opposition.
En fait, on n'en parle pas, c'est ça, c'est que on parle pas du chiisme. Et pour moi, l'histoire, normalement, reflète dans un livre d'histoire, on va trouver vraiment réellement les faits historiques, ce qui s'est passé réellement. Dans l'éducation religieuse, on est amené aussi, parce que ce courant, qu'on le veuille ou pas, qu'il le veuille ou pas, il existe bien. Donc, qu'est-ce qui est dit dans le sunnisme et qu'est-ce qui est dit chez ceux qui adhèrent au chiisme? Qu'est-ce qui est dit aussi sur les sunnites? Finalement, il n'y avait pas beaucoup de matière. Donc là, je me suis retournée vers le credo. J'ai dit, pour appartenir à une religion, la première chose à regarder, c'est sa foi. Donc, est-ce que les deux credos... Donc, j'ai fait une étude comparative entre les deux credos pour voir exactement de quoi ils retournent.
Et alors, qu'avez-vous trouvé?
Alors, les articles de la foi, les deux. Donc, moi, j'ai pris deux penseurs. J'ai pris Mahmoud Chaltout, qui était recteur de Jami' al-Azhar, et qui s'appuyait aussi sur la tradition classique dans les fondements de la religion. Et j'ai pris Ja'far Subhani, qui est Ayatollah, qui est une référence chiite. Et j'ai fait une étude comparative des deux penseurs.
Alors, vous prenez deux penseurs contemporains.
Ils n'étaient pas vraiment contemporains.
Chaltout est plus âgé que Subhani, oui.
En revanche, parce que c'est vraiment, même Chaltout, dans son livre, il s'appuie sur la tradition, je veux dire, classique.
Subhani, toujours en vie.
Toujours en vie.
Il doit avoir 90 ans pour cette année, on est en 2019. En revanche, Chaltout est mort en 1963.
Oui.
Là, est né à la fin du 19e siècle et sa trajectoire de vie a contribué à coïncider à la bonne moitié du XXe siècle, et l'autre est toujours en vie. Mais ma question tout à l'heure, Houaria Rahawi, sur est-ce que vous avez trouvé des différences dans les approches dogmatiques ou dans le credo, même à travers l'histoire? Y a-t-il une différence ou pas?
Les articles de la foi, qui sont au nombre de 6, sont les mêmes chez les chiites et ils sont d'accord chez les chiites et chez les sunnites. À la seule différence, c'est que les chiites, quand ça arrive à l'article de croire en les prophètes, la prophétie, les deux, même si Mahmoud Chaltout, que ça soit Mahmoud Chaltout, que ça soit Ja'far Subhani, parlant de l'article, arrivant à l'article croire en les prophètes, ça devient un peu monoprophétique parce qu'on parle plus que de la prophétie de Mohammed. Là où Ja'far Subhani intervient, c'est que là, il va rajouter, il va parler de l'imama, qui est comme lui, Massignon, considère que c'est un sixième pilier.
Dans les articles de foi, on ajoute cet article-là.
C'est pas un article, parce qu'ils sont d'accord que les articles de la foi, c'est les mêmes. Donc, on croit en Dieu, en les anges, en les prophètes, en la résurrection, en la destination, et la prédestination et la prédestination.
Alors, les articles de foi sont d'abord, il y a un Dieu un, en réalité, il n'y en a qu'un article unique et les autres sont des alinéas ou des corollaires qui en découlent. Il y a un Dieu un vivant qui s'adresse aux hommes. Sa parole est consignée dans les Écritures saintes. Ses porte-paroles sont les prophètes. Les anges sont là pour transmettre aussi cette parole. Et puis, il faut croire au jour du jugement dernier. Vous avez à juste raison aussi ajouté la question de la prédestination, etc. Et alors, ça, on les trouve chez les chiites et chez les sunnites. La nuance ou le bémol, si je puis dire, c'est lorsqu'on parle des prophètes chez les chiites, et notamment chez Subhani, puisque vous l'avez pris comme référence, et c'est une référence, on ajoute la question de l'imama, donc des imams.
Parce que selon les chiites, après la clôture de la prophétie, là vient le cycle de l'imama, l'imamologie. C'est-à-dire, pour eux, Dieu est juste, il peut pas laisser la communauté sans guide. Et ce guide, il peut être aussi infaillible. Donc, impeccabilité et l'infaillibilité, caractère qui est spécifique à l'imam. La grâce divine peut attribuer à quelques personnes ce privilège d'être impeccable et infaillible. Donc, il faut que c'est des guides spirituels. Ils peuvent, pour eux, il peut être un calife aussi, c'est-à-dire un guide
temporel.
Et en même temps, mais par contre, le plus important, c'est que c'est un guide spirituel. Et j'aime beaucoup. Si je puis dire, Shariati, quand il parle, il dit le génie est génie. On le reconnaît ou on le reconnaît pas, il reste génie. Donc, pour eux, c'est la question de l'imam, c'est une question évidente et n'a pas à être prouvée ou nommée. C'est une désignation divine, c'est comme ça. Voilà. Donc, il le considère vraiment.
Justement, à ce sujet, Houariya Rahawi, il y a les chiites duodécimains qui croient en 12 imams. Il y a les chiites septimains ou septimaniens, selon les appellations, qui eux croient en 7 imams. Alors pourquoi, comment ça se fait que les uns croient en 7 imams, les autres à 12 imams? Pourquoi 12? Qu'est-ce que c'est que cette affaire d'occultation? Il y aurait un imam occulté?
En fait, les septimains, ils s'arrêtent au 7e imam pour eux, qui est décédé alors qu'il était enfant. Donc, ils disent qu'il a été occulté. Et les chiites imamites, duodécimains, ils vont jusqu'au 12e imam. Et là, c'est la grande occultation. Mais n'empêche que là, ça ouvre aussi la porte de l'ijtihad. Donc l'ijtihad, pour eux, il est l'effort personnel, c'est-à-dire qui peut être aux érudits comme aux plus simples des croyants.
Chez les chiites, l'effort d'interprétation personnelle peut émaner, et ça incombe certes aux penseurs, aux érudits, aux savants, mais le simple croyant aussi, a droit d'exercer sa raison. Ce qu'on ne trouve pas chez les sunnites.
Chez les sunnites.
Qui, eux, réservent cette affaire d'efforts d'interprétation personnelle, d'interprétation tout court, que pour les savants.
Oui.
Donc voilà encore un autre point séparant les sunnites des chiites.
Les sunnites, déjà, ils rejettent le culte des saints. Donc pour eux, même le prophète, tout ce qui relevait des affaires humaines, il agissait en humain, ils considèrent. Et concernant la révélation, là, il agissait autant que prophète. Donc ils refusent tout caractère infaillible à tout humain. Alors que les sunnites, les chiites, pour eux, l'imam n'est pas un surhomme. C'est-à-dire, il faut qu'il ait des qualités spécifiques pour pouvoir avoir ce statut d'être, de tendre à que les autres le suivent. Donc, il ne peut pas être comme tout le monde. Il faut qu'il sorte de cette masse, se distingue par ses qualités que eux, ils qualifient d'infaillibilité, qu'il peut être infaillible pour pouvoir guider vers la voie de Dieu, comme ils le considèrent.
Oui, et comment se fait-il, ou pour quelles raisons, ou quels sont les arguments, comment expliquez-vous, Houariya Rahawi, qu'à un moment donné, ces imams ne sont plus parmi les hommes, le dernier a été occulté. Et on attend quoi? Leur retour, quelqu'un qui incarne la préfiguration des imams, cette notion de Mahdi, le bien guidé.
Moi, je voulais vraiment, mon étude, que ça soit, que ça présente un peu le chiisme qui va parler à tout le monde. Donc là, c'est un peu le côté, je veux dire, ésotérique, obscur. Hein. Donc, pourquoi il a été occulté, c'est un peu comme disait par rapport à le prophète et le sceau des prophètes, parce que la communauté n'a plus besoin, ils sont arrivés à une certaine maturité, qu'ils peuvent d'eux-mêmes gérer leur vie et continuer vers une vie de croyants avec le raisonnement de l'intellect. Peut-être c'est la même chose pour les chiites. Pourquoi ça s'est arrêté au 12e imam? Chose que je ne voulais pas. Il faut que ça me parle. Il faut que ça parle aussi à celui qui va regarder c'est quoi le chiisme, c'est quoi le cynisme. Les histoires un peu côté merveilleux, je ne me suis pas penchée sur ça.
Bon, alors revenons à des choses plus concrètes,
oui,
et à notre époque. Vos deux références, donc ces deux penseurs, le penseur sunnite Mahmoud Chaltout et le penseur chiite Jafar Subhani, l'un et l'autre avaient à cœur de colmater les brèches, de procéder à la cohésion de la communauté musulmane. Par-delà, justement, ces appartenances confessionnelles, à supposer qu'on puisse parler comme ça. Et ils ont réussi, ils ont plaidé cette cause, ont-ils produit aussi bien chez Chaltout que chez Subhani? Comment ont-ils manifesté ce désir d'union?
Chaltout, déjà, il est très connu, il a été par sa fatwa, quand il a délivré la fatwa de la validité de l'école Ja'farite, considérant comme une cinquième école canonique.
Alors expliquons, si vous voulez bien, cher Houari Arahawi, que dans le monde sunnite, on a quatre grandes écoles juridiques. Et lui,
il valide
celle de Ja'far
Sadiq. Donc, il considère comme une cinquième école, et comme il validait aussi de faire la prière derrière un chiite suivant cette école, comme le chiite aussi avait le droit de faire, qu'il validait la prière derrière un imam sunnite. Pour lui, la question, c'est que de suivre une école, c'est pas une obligation, et même de changer d'école aussi, c'était toléré. Et une école, ça ne fait pas partie du fondement de la religion.
Parce que ces écoles-là, en réalité, ce sont leurs maîtres, les maîtres fondateurs, avec ceux qui ont été séduits par leurs arguments, qui ont donné naissance du point de vue de la jurisprudence au niveau de la norme juridique,
voilà,
et religieuse. Et donc, pour un musulman, il peut suivre telle ou telle école, en changer,
oui.
Et ce n'est pas dogmatique.
Ce n'est pas dogmatique, ça ne relève pas du dogme. Et c'est pour ça que je me suis plus penchée sur la foi. Plus important encore que le culte, tout ce qui est cultuel. Donc là, on parle de la foi, qu'est-ce qui qualifie qu'un être humain appartient à une religion, qu'est-ce qui qualifie qu'un musulman est musulman. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette confrontation. Il s'est avéré que les mêmes articles, sauf que ils le revendiquent. Donc les chiites revendiquent l'imamat, mais si on regarde les sunnites, c'est un peu, ils le disent pas, c'est tacite, mais pareil, ils suivent aussi rien que les quatre écoles, c'est-à-dire tout ce qui a été dit à cette époque, il est pris à la lettre, et qu'il faut suivre aussi Oulil Amr, ceux qui ont le...
Les détenteurs de l'ordre.
De l'ordre aussi, il ne faut pas sortir, il ne faut pas désobéir pour ne pas provoquer la discorde. Il y a des traditions aussi qui disent de Ibn Hanbal, c'est Tunasana. Voilà, imam fasiq, 60 ans derrière un imam injuste vaut mieux qu'une journée sans imam.
Oui, donc, ou pervers ou prévaricateur. Il vaut mieux suivre un imam futile.
Que rester sans imam.
Oui, oui.
Donc, ils le revendiquent, ils le disent, mais c'est à peu près la même chose. Donc aussi, ils qualifient en plus un imam. Il ne faut pas sortir à désobéir à ceux qui détiennent le pouvoir ou qui guident, qui sont les guides temporels de la communauté musulmane.
Ça, la fameuse fatwa de Chaltout, qui lui a valu
beaucoup de critiques.
Une adhésion chez certains et des critiques chez les autres. Comment se fait-il qu'il valide en quelque sorte une cinquième école Ja'farite, celle des chiites d'une part, et de considérer le fait de prier derrière un imam chiite est une prière valide, parce que des intolérants, on en trouve toujours, il est toujours plus radical que soi. Et quels sont chez votre autre référence, qui est le penseur chiite Ja'far Subhani, ce qui plaide et les arguments qui militent pour le rapprochement avec les sunnites?
Il a assisté à beaucoup de congrès pour un rapprochement.
Et notamment à la Mecque.
Oui, et d'ailleurs son livre, là, c'est « À la lumière de madras, des gens de la maison ». En fait, il présente l'imamisme. Afin que les autres voient qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui contredit, qui est contraire à la religion musulmane. Donc, il était plus dans cette démarche de présenter le chiisme, imamisme tel quel. Il était plus dans cette démarche-là.
Et à la lumière des gens de la maison, Ahlul Bayt, les gens de la maison, c'est la famille du prophète.
La famille du prophète.
Donc Fatima, Ali, puis ses enfants.
Il faut que ce soit de la descendance de Ali et Fatima. Oui.
Il a participé à deux congrès, coup sur coup, deux années de suite, de mémoire, hein, je le dis sous votre contrôle, en 1991 et en 1992, à la Mecque, pour un congrès qui a réuni théologiens et penseurs musulmans. Et sa communication lors de ce congrès était un plaidoyer pour le rapprochement.
Pour le rapprochement.
Nous nous posons la question que c'est pourtant, est-ce qu'on n'était pas en période de querelle ou de friction pour des considérations politiques ou géostratégiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite? Ou pas encore? Ou est-ce que ce type de communication dans un congrès à la Mecque de la part d'un chiite reconnu dans un milieu sunnite était quelque chose de tout à fait naturel ou ça avait quelque chose de particulier?
Quelque chose de naturel en plus.
À ce moment-là
c'était pas quelque chose de naturel, c'était vraiment un effort. Mais peut-être qu'il y avait aussi des voix qui se sont levées aussi pour un rapprochement. C'était minime, hein, c'était vraiment une période très limitée.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Nous poursuivons avec l'islamologue Houari Al-Rahawi cet entretien à propos des sunnites et des chiites dans les contextes islamiques. L'histoire d'une querelle, d'une friction, d'un antagonisme par moments virulent. Il y a des convulsions paroxystiques entre les tenants des deux courants de cette tradition religieuse islamique. Houari Al-Rahawi, nous étions en train de parler de ces efforts qui émanaient de la part de grands penseurs sunnites et chiites pour le rapprochement. Pourquoi est-ce que ça ne prend pas maintenant?
Quand le politique s'en mêle, je pense que la réponse elle est très claire. Donc c'est pas dans l'intérêt ni de l'un ni de l'autre pour qu'il y ait un rapprochement.
L'intérêt de l'un et de l'autre, vous parlez des dirigeants politiques.
Des dirigeants politiques. C'est plus, moi je dis que le pouvoir s'en mêle, c'est difficile qu'il y ait vraiment un rapprochement.
Je peux témoigner qu'au Liban, par exemple, il y a des instances de rencontres, par-delà d'ailleurs l'islam, c'est la famille abrahamique. Donc il y a des sunnites, des chiites et aussi toutes les confessions chrétiennes présentes au Liban pour se dépasser et surmonter les clivages. Nous parlons d'une manière générale de par le monde. Quelles sont les statistiques? On dit que les chiites sont ou seraient entre 10 et 15% de la Oumma des croyants musulmans.
De la Oumma des croyants, 10-15%. Ils disent qu'ils sont encore plus. Hein. Les chiites se disent plus que 15%. Vu qu'ils pratiquent la dissimulation quand il y a persécution, quand ils sont dans des pays à majorité sunnite. Donc le nombre exact, on ne le sait pas. Mais je pense qu'ils sont plus de que 15%.
Et à travers l'histoire, il y a eu des moments où cet antagonisme n'était pas aussi important. Je pense à la dynastie Fatimide. Par essence, c'était une dynastie, c'était un califat chiite.
Oui, quand ils arrivent au pouvoir, ils valident toujours, c'est la thèse de ceux qui détiennent le pouvoir qui va prendre le dessus.
Oui, si j'ai cité la dynastie Fatimide, c'est pour dire, voilà un califat qui a construit, a érigé l'université Al-Azhar, qui est devenu maintenant comme le haut lieu et le symbole, le phare du sunnisme de par le monde et même à travers l'histoire, alors que c'était une institution qui a été fondée par des chiites.
Et beaucoup de savants aussi dans la civilisation, qui ont porté cette civilisation du monde arabo-musulman, étaient aussi étaient chiites. On n'en parle pas. Donc là, quand on parle d'eux, c'est des musulmans, c'est des chiites aussi.
Il y a eu aussi un autre moment dans l'histoire, c'est avant les Fatimides, c'est lorsque Al-Mamoun, le calife Al-Mamoun, dans ses oppositions avec son frère Amin, quand il devait succéder à leur père Haroun al-Rachid, il s'est fait aider dans un premier temps par des chiites.
Les chiites, quand on regarde aussi l'histoire, à l'époque abbasside, c'était aussi la même chose. Donc, ils étaient soutenus. Après, quand ils sont arrivés au pouvoir, c'était plus le cas. Le politique, quand il se mêle avec le religieux, ça ne donne pas toujours un meilleur résultat. Donc, et les minorités, le fait qu'ils étaient aussi minoritaires, ils avaient cette crainte. Donc, s'il arrive au pouvoir, sachant qu'il y a des gens qui soutiennent que le pouvoir revient, le pouvoir musulman revient à ceux qui descendent de la famille du prophète, et donc là, c'est un risque pour leur stabilité politique. Donc, la première chose à faire, c'est de les faire taire, parce que ça reste aussi des opposants.
La question de la gouvernance, comment gouverne-t-on la cité? Alors, dans le monde sunnite, à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas de doctrine politique pour gérer la cité. Au niveau chiite aussi, ou est-ce qu'il y a une doctrine, on a échafaudé une vision politique pour gérer la cité?
En fait, le seul exemple, là, c'est l'Iran. Après, il y a...
Oui, mais la notion du mandat du jurisconsulte, donc Wilayat al-Faqih, c'est une notion très récente.
En fait, selon... c'est plus sa première fonction, l'imam, c'est plus une fonction spirituelle. Mais il peut aussi remplir les deux. Donc, il peut être un guide temporel et en même temps, mais un guide temporel ne peut pas être un imam, ne peut pas être un guide spirituel. Il peut faire les deux.
Un guide spirituel peut assumer des fonctions temporelles, mais l'inverse non.
L'inverse non.
Ce qui explique que, par exemple, actuellement, dans la République dite islamique, moi, j'ai pas vu une République qui a une confession, mais en tout cas, la République islamique d'Iran, quel est le rôle de Khamenei? C'est d'être le guide spirituel?
C'est un guide spirituel chez les...
Mais ce n'est pas l'imam au sens que nous le comprenons chez les chiites. C'est pas un imam. Il n'est pas dans la lignée imamite.
Mais après, ça s'est rompu. Donc, la lignée imamite, après le 12e imam, là, ça s'est ouvert à Walayat al-Faqih. Après, toute personne peut accéder. Eux, ils ont beaucoup de titres, disons, descendre de la famille.
Ce que vous avez dit en arabe, Walayat al-Faqih, c'est ce qu'on traduit par le mandat du jurisconsulte.
Oui.
À ma connaissance, mais je le dis sous votre contrôle, ça date du milieu du 19e siècle. C'est une élaboration.
C'est une élaboration, oui.
Donc, cette affaire du mandat du jurisconsulte est une construction humaine.
C'est une construction humaine. Après, dans l'apparent.
Et sous la dynastie des Pahlavis, y avait-il ou pas des référents et des références de cet ordre où c'est venu avec Khomeini?
En fait, Khomeini était un guide spirituel, mais n'était pas un imam. Je veux dire, un imam...
Pas au sens
non,
consacré à l'imamat.
En fait, eux, c'est organisé. Ils ont un clergé, donc leur organisation, il était le plus haut...
Dans le clergé,
dans le
il
clergé.
Occupait un poste
ou un rang
élevé.
Je pense qu'il assurait les deux tâches. Donc c'était un guide spirituel comme un guide, mais pas au sens d'un imam.
En tout cas, pas le 13e imam.
Non,
voilà.
pas
dans ce sens-là. Houariya Rahawi, que reste-t-il des recommandations, des préconisations, des conseils, voire des consignes de vos deux penseurs, je dis vous parce que vous vous y êtes intéressé, de Mahmoud Chaltout, qui n'est plus de ce monde, et de Jafar Subhani, sont-ils suivis? Ont-ils laissé des disciples? Est-ce qu'on œuvre dans le sens qu'ils ont souhaité?
Alors, au jour d'aujourd'hui, on œuvre. Il y a toujours, heureusement, il y a toujours des voies pour un rapprochement. En revanche, au jour d'aujourd'hui, ça c'est encore plus, avec tout ce qui se passe, ça s'est plus empiré. C'est-à-dire ces voix, elles se sont fait étouffer, on ne les entend plus, même si elles existent toujours. Donc, c'est pas ça qui attire aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut dire à la fin de cette émission que... à travers l'histoire, il n'y avait pas eu, en dépit des frictions, des querelles, des oppositions, mais il n'y avait pas eu cette guerre et ce conflit aussi virulent, ou est-ce qu'il y a eu quelques périodes, mais maintenant ce à quoi nous assistons est conjoncturel.
C'est-à-dire...
Et circonstanciel, c'est-à-dire que on pourra le dépasser dans quelques temps. Cette opposition entre sunnites et chiites.
Cette opposition entre sunnites et chiites, Si on fait abstraction avec le fait que, parce que le problème, c'est que le problème y est toujours. Donc, ce que reproche le sunnite au chiite, c'est le culte de l'imam. Et l'imam, ça, c'est un pivot, c'est un credo même pour le chiite. Tant qu'il n'y a pas cette acceptation de l'autre de dire que peu importe le chemin qu'il va prendre, parce que le plus important, c'est que les deux, ils professent la même foi. C'est-à-dire le même témoignage. Il témoigne que Dieu est unique et que le prophète Mohammed est son messager. Et que le Coran, en plus, c'est le même livre. Donc ça, c'est vraiment les fondements de cette religion. Après, la lecture que fait l'un et l'autre pour arriver à approcher le texte ou arriver à approcher Dieu, donc même si elle reste différente, la finalité reste la même. Mais le fait qu'il y a toujours ce credo chez les chiites et que les sunnites considèrent comme un sujet qu'ils peuvent le considérer comme des incroyants, parce que considérer un humain avec des qualités, le problème sera toujours là. Si on ne dépasse pas cette question-là...
Le problème demeure, mais gardons l'espoir,
voilà,
avec l'idée que...
L'ouverture d'esprit, que les gens soient plus ouverts, de se dire, ça c'est des détails.
Et que lorsque les considérations politiques et géostratégiques seront aplanies, on reviendra à un meilleur sens et à un meilleur sentiment. Merci infiniment, Houali Al-Rahawi, merci d'être venu
nous
parler... plutôt des tentatives et de la volonté de rapprochement entre sunnites et chiites à travers l'œuvre de deux penseurs contemporains, en tout cas l'un du XXe siècle et l'autre qui est encore vivant. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abtral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Marie le Peintre et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.